Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 12, le baiser mondial du pénalty. Qui va tirer le pénalty de la victoire, chers amis? Bonjour. Une émission garantie sans gluten ni Noël. Eh bien, oui, nous sommes en direct du stade du Ballon Rond. Allons-nous parler de football? Oui, c'est le Qatar. Hier soir, on m'a téléphoné, le Qatar, pour me raconter à l'avance la finale. Et ce personnage absolument extraordinaire, voyant, vous l'avez bien connu, chers auditeurs, et vous aussi, chers amis, autour de la table, dans ce studio, puisque nous avons un président de club international, une arbitre aussi internationale, qui va arbitrer la finale. Léa Renault, comme une image qui est gardien aux 113 sélections, Tlaloc Linder qui est fabricant de ballons, mais alors cousu main, hein, donc made in France, et Kai Littmann, avocat, spécialiste du droit du sport. Et alors, au téléphone, on aura Val du Ballon qui est un étudiant de Rosheim, un lycéen, et il est, on va l'avoir en direct de Doha, si la ligne passe, parce qu'il est dans les tribunes. Et puis Alti Dupen, qui est un ancien international, professeur de football. Alti Dupen, Dupen, Nalti, haha. Bon, donc, eh bien, cette finale, parce que, bon, le football, on est tous des spécialistes. Eh bien, ce fut un moment d'une grande émotion. Alors, je parle au passé, puisque ça se passe demain, mais que nous le savons à l'avance. On va voir exactement comment ça s'est passé, chers auditeurs qui en avaient marre de vos voisins qui allumaient la télévision et vous entendaient les cris de victoire. Imaginez, nous sommes au tout début de la finale. On est sur le terrain, la caméra s'approche. On va jouer à pile ou face de quel côté du stade chaque équipe va jouer. Parce que vous savez, il y a 11 joueurs de chaque côté, un ballon au milieu, il court, et après, il y a la mi-temps, et il court dans l'autre sens. Donc si, entre-temps, vous êtes allé quelque part et truc, bon, c'est un peu compliqué à suivre. Alors, l'arbitre, M. Jean Genet, et j'en ai beaucoup, lance la pièce en l'air. Les deux capitaines se penchent. L'arbitre ouvre la main sur une pièce, alors c'est une pièce de 10 hryvnia. C'est la monnaie en argent de Kiev. Petit hommage. Sur le visage des deux footballeurs, un grand sourire. La caméra se rapproche. Vont-ils se tendre la main pour se souhaiter sportivement bonne chance avant le coup de sifflet? Non. Le capitaine des Bleus saisit doucement la nuque de son adversaire. Ses lèvres se rapprochent du visage. Et oui, oui, les voilà tous les deux qui se roulent un énorme palot devant 4 milliards de téléspectateurs en direct. Les deux footballeurs les plus célèbres du monde s'embrassent goulûment. Chacun pose la main sur les fesses de son adversaire et lui caresse le popotin. Cela fait 10, 15, 17 secondes d'un long baiser. Mais cet amour merveilleux éclate sous le ciel du Qatar. De chaque côté des équipes, on applaudit à tout rompre. Les spectateurs hurlent de joie. 10 pénaltys ne feraient pas autant d'ambiance. Et en plus, on apprend qu'ils vont se marier après le match. Mais que vois-je? Le croissant rouge, c'est la croix rouge locale, qui se précipite. Le ministre des bonnes mœurs vient de faire une crise cardiaque. Je le vois dans les gradins. Il est évacué du stade sur une civière. Bien, on lui souhaite bon rétablissement. Ah, c'est beau le sport, de l'amitié, de l'amour. Et on apprend que, brusquement, dans certains pays, il y a eu des coupures de courant, coupe de sifflet. Les 22 joueurs prennent leur place. Le match de la finale va commencer et le ballon est rond. Mais voilà que les 22 joueurs retirent de sous leur maillot un foulard. Ils s'entourent la tête de tissu. Ils font des signes. Oui, ce sont des signes de solidarité avec les femmes. Nous sommes tous des femmes au Qatar. Vive les femmes, comme disait Reiser. Bravo. Voilà, le ballon roule sur le terrain, le match commence. Quelle ambiance. Qu'ils sont merveilleux d'insolence, ces footballeurs. C'est formidable, le foot, non? Alors, l'artisan de cette finale déjanté, on sait qui c'est. Vous l'avez bien connu. Alors, ce n'est pas Mbappé, Bappé, ni Ronaldo. On trouvera son nom en fin d'émission, mais je voudrais tout de suite demander à Madame l'arbitre, est-ce que le résultat du match a encore de l'importance ?
Pour la fête, oui, c'est quand même vachement important de savoir qui gagne. Hein. Tout le monde choisit son équipe avant de commencer le match. Difficile de fêter si l'équipe qu'on avait choisie a perdu. Donc oui, bien sûr, ça a de l'importance, le résultat.
Mais alors, bon, il y a 22 joueurs, hein, j'ai appris avant de rentrer, oui. Et imaginons qu'on tire au sort les deux équipes. Mmh. Ou alors on fasse les prénoms ou les dates de naissance père et impair. Et donc, il y en a 11 d'un côté, 11 de l'autre. Mais en fait, c'est... comme de toute façon, ils connaissent tous, hein, puisqu'ils jouent tous dans des clubs qui les payent 200 millions par mois. Et ils sont, voilà. Donc, en fait, on tire au sort les deux équipes. Est-ce que ce serait pas plus rigolo pour une finale ?
Mais si, c'est vachement, vachement bien, cette idée. Merci, Ambroise. Je pense qu'on peut l'appliquer déjà demain, en fait.
Oui.
Alors, quels critères ? Est-ce qu'on prend les dates de naissance ? Les prénoms par ordre alphabétique.
Oui, ou alors non, tout simplement...
Pile ou face,
ça marche toujours, oui.
Mais faisons
voilà.
Ça.
Voilà. Alors, est-ce que le gardien accepterait, comme une image, 113 sélections quand même en international, est-ce qu'on accepte de jouer avec et contre des joueurs qui ne sont pas des copains ?
Oh, vous savez, vous parlez à un gardien, en général, les gardiens, ils sont là parce que... Courir, c'est fatigant. Bon, gardien, on regarde, voilà, on donne des ordres. Bon, ce qui est important, c'est qu'on me comprenne. Voilà, je leur dis défendez-moi, je leur dis attaquez-les. J'attends que mes ordres passent. Après, voilà, qui s'appelle Ronaldo, qui s'appelle Mbappé.
Oui, le gardien, j'ai vu parfois des gardiens qui avaient leur iPhone, là, ils jouaient parce qu'ils s'ennuyaient tellement.
Ah oui, c'était peut-être moi.
Ils jouaient tout le... Ah oui, oui.
Ouais, peut-être, ouais. Oui. Oui, une fois, oui, on était trop fort, puis bon... À un moment, faut s'occuper, quoi. T'es au goal, t'as ta cage derrière, bon...
Mais alors, il y a des gardiens, j'ai vu ça, je sais plus où... Il tire dans le ballon va jusqu'au milieu, il rebondit, personne ne fait attention et il rentre dans la cage adverse. Donc oui. C'est le gardien qui marque un but.
Oui, c'est déjà arrivé.
C'est déjà arrivé, c'est drôle ça quand même.
Ouais, bah, ça arrive pas souvent, mais bon.
Il a l'air toujours, bien blasé notre gardien. Oui.
Ah ouais, vous trouvez ? Non, oui. Non, moi j'aime ce que je fais, hein, vous savez.
Oui. Ouais. Bah alors, Kai Littmann, vous êtes donc... un avocat spécialiste du sport, est-ce que les télévisions, qui gagnent quand même beaucoup d'argent avec tous ces matchs, est-ce qu'elles joueraient le jeu, elles seraient d'accord ?
Les télévisions, c'est une question purement juridique. Le vainqueur de cette Coupe du Monde a été déterminé bien en amont. Il y avait beaucoup de paragraphes qui entraient en jeu. Mais bon, à la grosse limite, quand on joue pas, le vainqueur, il est déjà fixé.
Oui, mais est-ce que les droits... pour les publicités et tout l'argent qui rentre, est-ce que ce serait pareil dans ces cas-là ?
Oui, ils rentrent. Ils rentrent, ah oui. C'est des contrats de très long terme. Il y a une bonne partie qui va directement chez M. Infantino, parce qu'il a mérité. Mm-hmm. Et là, on est en train de discuter les droits pour la Coupe du Monde 36 en Corée du Nord. Et je pense que ça va être...
Parce que 1936, d'habitude, c'est à Berlin. Mais
oui,
non.
Oui, mais oui. Là, on prend Pyongyang. Et je pense que ça va être une très très belle Coupe du Monde. Alors, peut-être la plus belle.
Monsieur l'avocat, j'ai vu des cartes comme les cartes Panini là, de football, mais c'était... Alors, c'est bizarre, je n'ai pas reconnu les joueurs. C'est qui sur ces cartes ?
Eh bien, ce n'était pas les joueurs. C'est paru sur un média indépendant suédois et chez Eurojournaliste à Strasbourg. C'est des cartes Panini qui montrent les victimes qui sont mortes sur les chantiers. C'est désagréable comme histoire, mais à un moment donné, il faut aussi la documenter. Et donc, ces médias-là publient tous les jours une carte collector avec l'histoire d'une des victimes sur les chantiers. Au Qatar.
C'est les morts du stade.
C'est des morts du stade, exactement.
Mais ce ne sont pas des gladiateurs, ce sont des ouvriers qui venaient du Pakistan ou d'ailleurs.
C'est les inconnus qui sont allés travailler, qui sont rentrés chez eux dans une boîte.
Et... Ah, attendez, je crois qu'on entend, on va avoir Val du Ballon qui est à Rosheim, mais vous n'êtes pas à Rosheim, Val, vous êtes en direct de Doha dans les tribunes. Allô ? Alors Val du Ballon, vous êtes dans les tribunes et le match vient juste de commencer. Comment est-ce que des jeunes Alsaciens ont été invités à suivre cette finale ?
Oh, c'est vraiment, merci de m'avoir invité, toujours un plaisir de participer à l'émission Vous l'avez bien connu. C'est fantastique. Alors, on a donné un don, une grosse somme hein, quand même, et un matin comme ça, en allant à l'école, notre professeur a dit, l'équipe de France nous a envoyé une lettre. On était dans la classe, on était tous hyper contents, tout. Et quand on l'a ouvert, c'était écrit vous êtes bien conviés au match au Qatar. On était tous vraiment hyper contents.
Et alors, c'est tous les élèves de la classe de Rosheim qui sont au Qatar?
C'est vrai que là, à côté de moi, j'ai tous mes copains, ils sont tous hyper excités. La plupart, ils font soit du foot, soit des sports collectifs, du coup, on est tous hyper contents.
Et vous-même, vous jouez au foot?
Non, malheureusement, je ne sais pas.
Alors, quel est le meilleur moment? Ce sont les tirs au but? Les pénalties?
Je pense que le meilleur moment avec le plus de suspense, c'est quand un joueur arrive avec la balle devant le goal.
Ah oui, d'accord. Bon, je ne vous demande pas quel est votre pronostic, mais je suppose que vous aimez bien les toutes petites équipes. Le Liechtenstein, vous pensez qu'il a des chances de gagner? Le Liechtenstein.
Le fait qu'il souffrir et justement ce pionnier.
Bon, écoutez, merci beaucoup Val du Ballon et nous revenons en studio. Voilà, alors merci. Le ballon, il faut le fabriquer quand même. Hein. Donc, le ballon, on le sait, il est rond. Tlaloc Linder, vous avez quand même une spécialité, c'est vous êtes fabricant de ballons que vous cousez vous-même à la main. Alors, d'abord, avant de m'expliquer comment vous faites, parce que la couture est à l'intérieur, il faut retourner le ballon, je ne sais pas très bien comment on peut faire, mais une fois qu'un ballon a fait un championnat, le ballon de la finale, est-ce qu'on le garde précieusement ou est-ce qu'il va être réutilisé plusieurs fois? Combien de fois on peut utiliser un ballon?
Là, vous mettez Carib avant Silla, la charrie avant les bœufs, etc. Je n'ai pas toujours fabriqué des ballons et je rebondis sur ce que dit mon camarade juriste. L'avenir est en Corée du Nord. Je vous le dis franco, parce que quand j'ai croisé Kim Jong-un, franco, général. Quand j'ai croisé, oui,
Guernica.
En général, Kim Jong-un, à l'époque j'étais chantre, poète officiel de Corée du Nord. Et à un moment donné, Kim Jong-un m'a dit, écoute, arrête de chanter, fais des ballons. Donc je suis retourné en France, j'ai commencé à faire des ballons, parce que justement, il y a tout un élan de la jeunesse nord-coréenne qui s'engoue pour le ballon français. Et donc, j'ai commencé à faire des ballons français pour la Corée du Nord, qui, je le rappelle, est l'avenir.
Alors, je voudrais demander à l'arbitre, est-ce que vous vérifiez avant le match la qualité du ballon? Alors, pas le ballon de rouge, hein, le ballon en cuir.
Non, pourquoi faire?
On ne sait jamais, s'il est dégonflé, par exemple.
Ça n'arrivera jamais avec les nôtres. Hein.
Non?
Voilà, la solution pour les prochains matchs, on prendra les ballons de Tlaloc, et puis comme ça, pas besoin de vérifier. On fait confiance.
Ah bon?
Oui. Par contre, Ambroise, rien à voir avec votre question. Je reviens sur votre super idée, là, de mélanger les joueurs et tout. J'ai mieux. Ah. Et je pense qu'on va mettre ça en place dès demain. On prend un bac. Dans ce bac, on met les numéros de tous les sièges qui sont dans le stade et on en tire au sort pour constituer chacune des équipes. Comme ça, plus besoin de joueurs, on prend dans
c'est...
le public.
Ah, c'est génial.
Et je dirais même, oui, pour donner plus de chance à plus de gens, on ne fait pas 11-11, on pourrait faire 15-15 ou quelque chose comme ça.
Oui. Comme ça, il y aurait un peu plus de monde, oui.
Je me permets d'intervenir. Ça existe déjà. L'année dernière, on avait ici à Strasbourg le match intitulé « Foutez-nous la paix », qui était un match interreligieux où il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, des non-croyants. Et effectivement, les équipes étaient composées par un tirage au sort. Les équipes étaient mixtes et franchement, le foot comme ça, c'est le mieux qu'on puisse imaginer.
Oui, c'est rigolo et puis on peut faire des paris à ce moment-là. Mais alors, est-ce qu'un avant-centre ou un défenseur, ou est-ce qu'il peut être aussi gardien, ou est-ce que, parce que c'est quand même très spécifique d'être gardien de but, parce qu'il faut savoir plonger, il faut anticiper pour un pénalty, il faut plonger avant qu'il tire, et puis il va tirer de l'autre côté.
Oui, oui, bon, les pénaltys, ça n'arrive pas souvent, vous savez. Puis en vrai, il y a une règle au goal, c'est plus on tire fort, plus la balle elle met du temps à revenir. Du coup, bah, en général, c'est surtout sur ça qu'on travaille, quoi. On tire le plus fort possible, comme ça, la balle, elle revient dans le plus longtemps possible.
Je me permets de dire que quand on est gardien de la foi, on peut garder son but.
Oui, c'est vrai. Mais parfois, on est sans but si on est agnostique, incroyant.
Et puis, je déplore que dans ce tournoi, il n'y ait pas eu de masdéiste ou de manichéen.
Oui.
Parce qu'un mannequin...
Alors, attendez, je regarde sur mon écran, il y a un changement de joueur. Ah, mais alors, c'est le joueur remplaçant, Quentin Connu. Il entre sur le terrain. Ah ben, on est à 10 minutes avant la fin du match. Changement de joueur. Mais alors, bon, les entraîneurs, souvent, ils font ça pour être sympas, pour que tout le monde puisse jouer un petit peu et toucher la baballe. Voilà Quentin qui trottine, il accélère, une passe, il se retourne, il reprend sa petite course. Il accélère encore, il contourne la défense, il tire. Goal, goal, Quentin ! Quentin Connu met un but au bout de 13 secondes sur le terrain. Quel exploit, c'est magnifique. Alors, gros plan sur le joueur. Il a ce petit air modeste du gars qui dit « Tiens, j'ai mis un but ». Non, mais c'est vrai, parfois, ils ont cette tête. Hein. Ils viennent de mettre un but, ils font comme du genre « Ouais, bon, je fais mon boulot, quoi hein. ». Alors, ce petit air entendu, il ne peut pas s'empêcher de relâcher un petit peu les muscles du visage, il a un énorme sourire qui éclate avant que les autres joueurs lui grimpent dessus dans cette espèce de convention d'amas de muscles qui s'enfilent et qui s'empalent en gros tas d'enthousiasme un petit peu LGTB, hein, faut le dire. Quelle exubérance dans la forme tradition des vainqueurs. Alors, un but au bout de 13 secondes sur le terrain, il va être titulaire, le Quentin Connu, et le prochain... Mais il est d'une voix devant. Ah, mais il reprend, il encore un but, but ! Un deuxième but en 2 minutes, quel exploit, c'est formidable. Alors, quand les petits sont plus forts que les grands, c'est quand même... est-ce que ça arrive souvent, ça, de prendre 2 buts en 2 minutes, comme...
Ouais, ça peut arriver, mais en vrai, c'est pas normal. Hein. Mais je pense que c'est une bonne idée, on rajoute des joueurs, comme ça on met plus de goals, non ?
J'ai pensé 5 goals devant la cage. Ouais, on les aligne bien, ils écartent les bras comme ça, le ballon entre plus.
Mais justement, autant mettre plus de ballons.
Ah ouais, aussi, ah
oui.
Ouais.
Oui,
ouais,
ça c'est une bonne idée, un ballon pour
des
chacun.
Des ballons français cousus humains.
Alors, attendez, alors, justement, nous avons Alti Dupen au téléphone. Alors lui, il est professeur de football, on va lui demander son avis.
Alors, monsieur Alti Dupen, une fois encore, merci d'être avec nous. Vous êtes donc professeur à l'école d'arbitrage de Sciences Po Foot Strasbourg.
Exactement, oui.
Et alors, quelles sont les matières préférées de vos étudiants?
Bah, écoutez, nos étudiants, forcément, ils s'intéressent au foot. Donc, nous avons une série d'enseignements autour de la balistique.
Oui.
Pour étudier les trajectoires des ballons. Selon combien ils sont gonflés ou pas, selon si l'on est en terrain sec ou en terrain humide.
Oui, j'ai vu également que vous aviez une option baby-foot.
Ah, il y a une option baby-foot. C'est une option qui se fait avec des ballons en métal ferreux, évidemment, résonance magnétique sur la trajectoire du ballon, c'est évidemment quelque chose qui permet des calculs extrêmement fins pour comprendre comment un ballon peut virer dans l'espace, prendre certaines courbes qui sont absolument impensables pour la géométrie euclidienne.
Ah, eh bien écoutez, c'est absolument formidable, je suis ravi d'apprendre que c'est grâce à un éminent professeur strasbourgeois que peut-être les joueurs français vont mettre des pénalties comme cela. Bah écoutez, merci beaucoup monsieur Alti Dupen et puis bonne continuation. Vous avez combien d'étudiants à Strasbourg ?
Une quarantaine.
Ah oui, c'est bien. Bah vous pouvez faire deux équipes alors. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles parmi vos étudiants ?
Autant de filles que de garçons.
Ah.
Parfaite parité.
Parfait. Ah ben écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Eh bien, merci beaucoup. Et je voudrais rappeler que quand les joueurs du Maroc ont été qualifiés par les tirs au but, il y avait également un grand enthousiasme. Alors, ce fut une heure d'hurlement dans le stade. On sifflait les joueurs espagnols et on applaudissait les joueurs marocains. Alors, à Bruxelles, les spectateurs marocains étaient tellement heureux qu'ils ont tout cassé. À Strasbourg, on a bloqué les rues comme pour un défilé de mariage, klaxons, etc. Alors, au Maroc, le roi est descendu dans la rue pour exprimer sa joie. Et alors, dans son enthousiasme, le roi a fait ouvrir les prisons et il a libéré tous les opposants politiques. Et il a même promis que si le Maroc allait en finale, il instaurerait une république démocratique à Rabat. Non, 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 mais là, je vois la tête de Kai.
Ah ben là, on tombe quand même des nues, hein. Franchement, le roi du Maroc instaure la démocratie dans son pays, qui libère tous les opposants du football. Il faudra ramper la position.
C'est la magie du football. C'est la magie
Rabat,
du football.
À Rabat, il ne s'agirait pas d'être rabat-joie.
Non, oh. Non, 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 là, formidable. Non, quand même, le football qui arrive à une telle réussite démocratique.
On en voit le jour, rabat-jour.
Oui, encore une. Bravo, Tlaloc. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a des arbitres femmes, féminines, au Maroc ? Est-ce que vous avez des collègues marocaines ?
Vous savez, moi, j'ai commencé ce métier hier, en fait. Donc, j'ai...
Vous êtes en stage, alors, encore ?
Non, 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 vraiment. Stage, c'était hier. Aujourd'hui, c'est bon. Je suis titularisée. Avant ça, j'étais jury à Pfastatt dans les compétitions de gymnastique rythmique. Il y avait aussi du ballon, du coup, dans la gymnastique rythmique. Juste pour vous dire que, du coup, mes collègues marocaines, je ne sais pas si elles existent, je n'ai pas trop eu l'occasion de discuter avec elles. Mais on pourrait penser à créer un petit club des arbitres féminines internationales, et pourquoi pas avec quelques marocains.
Il faut lever le voile sur les arbitres.
Oui, je pense. C'est le moment.
Tout en sachant que ce qui est formidable aussi dans le football, c'est que vous allez n'importe où, vous voyez trois gamins qui jouent au foot avec une boîte de conserve ou avec un ballon de pacotille qui coûte 3,50
euros. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ballon cousu main made in France.
Oui, ça coûte aussi cher qu'une voiture. C'est les ballons pour les...
Écoutez, il y a voiture et voiture.
Oui, c'est vrai. Une vieille de chevaux d'occasion, on peut s'acheter un ballon, voilà.
Et puis après, on peut mettre le ballon dans la voiture.
Voilà. Bon, alors... Quand même, pour conclure notre émission, je voudrais demander à Côme encore quelque chose, parce que quelle est la matière préférée des étudiants en football ? Alors, il y a la physique des globes pour le ballon, hein, et là, je crois que c'est la physique quantique, alléluia, des volumes, mm-hmm. Hein, ça. Et puis il y a la stratégie balistique pour les tirs au but. Et là, je crois que c'est l'influence des planètes sur la trajectoire du ballon qui va vers les buts. C'est comme la lune qui règle la marée dans les océans. Il y a un petit côté un petit peu magique. Le ballon, il part tout droit, puis il tourne, il contourne les autres et il rentre dans le but. Comment ça se fait, ça ?
Bah, c'est parce que la lune, elle est grosse, du coup, elle attire. Et du coup, quand on tire... Par exemple, moi, quand je joue, je dis à mon équipe, on se met du côté loin de la lune. Comme ça, la lune, elle attire du côté des ennemis et le ballon, il est moins chez moi, par exemple. Ça,
les ennemis, vous êtes quand même...
Ouais, c'est les adversaires.
Oui, oui, oui.
Les adversaires.
Oui. Et alors, la stratégie de physique quantique pour calculer la qualité de la sphère
Ouais, en quantique, ouais, c'est Schrödinger. Donc, comme le ballon, il est sphérique, et on peut appliquer les mêmes lois que pour les atomes. Et puis, donc là, voilà, on peut intriquer deux ballons, par exemple. Puis comme ça, quand on tire d'un côté dans nos cages à nous, en fait, ça met un but chez les ennemis. Chez les adversaires, pardon.
Voilà. Eh bien, écoutez, on va laisser les adversaires se reposer un petit peu. C'est la fin de l'émission. C'était l'épisode numéro 12 de « Vous l'avez bien connu, le baiser mondial du pénalty » avec aujourd'hui Léa Renault, arbitre international qui va arbitrer la finale, comme une image, gardien aux 113 sélections, Tlaloc Linder, fabricant de ballons coups humains, Kai Littmann, avocat, spécialiste du droit du sport. Au téléphone, nous avons eu Val Duballon, un lycéen de Rosheim en direct de Doha, et Alti Dupen, un ancien arbitre international, professeur de football. À la technique, Thomas Marinelli, on se retrouve le mardi à 11h30 et le dimanche à midi. And my name is Ambroise Perrin.